de la voir. Elle semble très jolie en photo. Bonjour Linda, sois bénie. Bonjour Vitar, bonjour à Javel aussi. Soyez tous deux bénis. Alors on va prier et on va débuter donc notre enseignement pour aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Un moment, Seigneur, que nous prenons à part pour nous assembler, même si c'est à travers un écran d'ordinateur, un écran de cellulaire. Nous sommes là, Seigneur, pour prendre un temps et méditer ta parole et recevoir de toi une nourriture qui nous sera favorable, non seulement dans cette journée qui débute, mais aussi, Seigneur, dans le cours normal de notre vie. Puisses-tu nous instruire, puisses-tu nous parler, puisses-tu mettre le doigt, Seigneur, sur des situations de nos vies que tu veux voir changer et transformer. Des secteurs, Seigneur, de notre existence que nous aurions tardé à te remettre. Puisses-tu, Seigneur, en avoir pleine possession et œuvrer comme il te plaît en nous. Je bénis ma sœur ce matin, je bénis mon frère, tous ceux qui sont là, réunis pour ce temps, mais aussi ceux qui se joindront à nous en différé, qui écouteront cet enseignement plus tard en journée. Donc nous te demandons, Seigneur, de déposer sur nous ta grâce et ta bénédiction. Et qu'en toute chose, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors je relis pour vous le verset qui est thème pour cette semaine dans 1 Corinthiens au chapitre 15. On aura le temps de saluer d'autres personnes tout à l'heure. Donc 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je répète le verset. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, la thématique hier, c'était soyez fermes, et aujourd'hui, on passe à soyez inébranlables. Et dans notre langage de tous les jours, ces deux termes qui sont assez similaires, qu'on pourrait prendre comme des synonymes, mais lorsqu'on analyse un peu plus la portée de chacun de ces deux termes, on se rend compte que, notamment au niveau biblique, dans la version originelle en grec, l'origine de ces termes diffère et ont des connotations, des interprétations qui sont intéressantes à spécifier pour l'un et pour l'autre. Hier, lorsqu'on a parlé de rester ferme, on parlait essentiellement d'un travail personnel que nous faisons pour nous enraciner dans le Seigneur. On parlait essentiellement de la fondation qu'on pose, sur laquelle on construit, du fondement de notre vie, du fondement de notre foi, et duquel dépendait non seulement notre croissance, non seulement notre avenir, mais aussi notre pérennité dans l'œuvre de Dieu et dans la foi. Aujourd'hui, on y va avec, comme j'ai dit, avec un terme qui s'apparente un peu à l'affermissement, mais on va le voir sous un angle qui est quand même assez différent. Donc, soyez inébranlables. Le verbe être pour soyez, bien sûr, à l'impératif, qui était le terme ginomai, G-I-N-O-M-A-I, G-I-N-O-M-A-I, qui est un terme usuel dans nos textes bibliques, qui veut dire devenir, exister, se lever, être fabriqué, apparaître. Donc il y a une notion de nouvelle étape, une notion de début qui s'inscrit dans ce terme soyez. Lorsqu'on demande à quelqu'un d'être quelque chose, c'est qu'il ne l'était pas jusqu'à présent et on lui donne soit le commandement, la recommandation, où on lui lance l'invitation pour devenir quelque chose. Et hier, on disait devenir ferme, et aujourd'hui, on dit devenir inébranlable. Et le terme inébranlable, c'est le terme grec ametakinetos, ametakinetos, qui arrive simplement dans ce passage-ci des Écritures. On ne le retrouve pas à deux ou trois ou à plus d'occasions. La seule occasion dans laquelle on le retrouve dans le Nouveau Testament et bien sûr dans la Bible, puisque c'est en grec, c'est dans ce verset 58 du 15e chapitre de 1 Corinthiens. Ametakinetos. Donc Ametakinetos. Je répète, Ametakinetos. Et ce qui est amusant avec nos études matinales, avec nos bénédictions matinales, c'est que ça me permet à moi de retourner dans mes anciens lexiques grecs et puis hébraïques aussi. Vous savez qu'avant que le Seigneur ne change le cours de ma vie, j'ai étudié pendant un certain nombre d'années en littérature française, donc l'étude de l'étymologie des mots, les racines, les suffixes, les préfixes était quelque chose d'important pour moi. Et depuis le début du confinement, alors que on étudie énormément les textes, on retourne à des mots grecs et j'ai un peu ces mécanismes d'autrefois qui reviennent pour étudier chacun des termes. Alors, je vais vous décomposer le terme ametakinetos en trois parties. A, puis meta et enfin kinetos. Lorsqu'un mot débute par le son A en grec, ça veut toujours dire l'absence de quelque chose. Amorphe, donc l'absence de mouvement, l'absence d'émotion. Abnégation, ça veut dire l'abandon de mes droits, donc l'absence d'user mes droits. Amnésie, l'absence de la mémoire. Et ici, c'est l'absence du metakinetos. Meta, c'est au-delà. Ça veut dire qui sort des limites, qui sort du paramètre ou des paradigmes habituels. Et kinetos, qui veut tout simplement dire mouvement. Donc ici, on est en train de dire que ametakinetos veut dire l'absence de mouvement qui nous fait sortir d'un certain périmètre. Meta, au-delà d'un périmètre, kinetos, mouvement. Donc l'absence d'un mouvement qui nous fait sortir d'un certain périmètre. Lorsqu'on parle de ametakinetos en grec, on va parler de ce qui est ferme, de ce qui est persistant, de ce qui a une pérennité, donc qui dure dans le temps. Mais de surcroît à cela, on va aussi parler de ce qui ne peut pas être courbé, tordu, fléchi. Et c'est là où metakinetos ou ametakinetos prend tout son sens. Donc, on empêche à quelque chose de se courber, d'être tordu ou de se pencher. Hier, on voulait que la fondation soit solide, que l'enracinement soit solide. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, on parle plutôt du tronc de l'arbre ou du corps de l'édifice qui est solide et qui ne peut pas être tordu. Donc, le premier point aujourd'hui, qui ne peut pas être courbé. Pour que quelque chose ne soit pas courbable, pour que quelque chose ne puisse pas être courbé, il faut que cette chose soit solide. Alors, Paul invitait le croyant de Corinthe, mais aussi, par ricochet, nous aussi, de ne pas être sujet à être courbé, à être tordu, d'être assez solide dans notre foi. Hier, c'était être assis, être posé, et là, c'est être solide dans notre foi. De ne pas avoir ces tendances à aller à gauche, à aller à droite, à se pencher vers l'avant, se pencher vers l'arrière, mais avoir une solidité dans notre foi, savoir pourquoi on a cru, savoir ce en quoi on a cru, avoir assez de connaissances sur quoi on a cru pour ne pas être ébranlé par différents sujets. Lorsqu'on parle de plier, on parle aussi d'une force qui est exercée sur un objet. C'est pas une question ici de se courber nous-mêmes, mais c'est d'avoir cette résistance aux événements ou aux éléments extérieurs à nous, être capable de résister aux influences qui voudraient nous faire courber. Et ce matin, on va en voir 5 ou 6 qui pourraient être importantes dans notre vie et face auxquelles il nous faut apprendre à rester ferme, à rester inébranlable. Donc, il ne peut pas être courbé et de surcroît à cela, faiblement, qui ne peut pas être non plus déplacé, qu'on ne peut pas prendre d'un endroit pour mettre dans un autre. Et ici, on rejoint donc la pensée d'hier d'être bien enraciné. Alors, voici cinq influences qui vont venir contre un arbre, qui vont venir contre un bâtiment et qui doivent nous servir à nous aussi d'image quant à ce envers quoi nous devons résister. Alors, un arbre fait fi des vents. Un arbre qui est solide ne va pas courber sous le vent. Devant la maison, j'ai plusieurs arbres. J'ai un gros tilleul qui doit faire l'équivalent d'un immeuble à 3 ou 4 étages. J'ai un sapin derrière la maison. J'ai une espèce de gros chêne. Et même si j'essayais de l'embrasser, il faudrait être à 2 ou à 3 pour pouvoir entourer l'arbre. Donc, c'est des arbres qui sont solides et quand le vent souffle, il ne peut pas être courbé. Les branches bougent, les branches peuvent courber, mais le tronc en soi, ce qui soutient les branches, le tronc ne peut pas être plié malgré le vent. Donc pour nous, ça doit être un enseignement aussi. Et qu'est-ce que représente le vent dans la parole de Dieu? Très souvent, le vent va être tout simplement un symbole des influences et des modes. Des influences de l'extérieur, des modes qui régissent le monde extérieur et qui très régulièrement viennent contre nous pour essayer de nous faire plier d'un côté ou d'un autre. Donc nous devons savoir que notre foi n'est pas sujette aux modes. Notre foi ne devrait pas être sujette aux influences qui peuvent être lancées à droite et à gauche. Notre foi devrait être solide à un tel point que s'il y a un nouveau vent, un nouveau courant de pensée, on ne soit pas emporté par ces vents. Et je crois que c'est l'apôtre Pierre même qui va en parler dans ses lettres, où on va dire qu'on ne soit pas des hommes irrésolus emportés au vent d'autres doctrines. Donc, il est important d'avoir une bonne base, d'avoir un bon tronc commun, qu'on va appeler un tronc commun théologique, qui nous permet de savoir déchiffrer, de savoir reconnaître ce qui est biblique de ce qui n'est pas biblique, ce qui est important de ce qui l'est un peu moins, et d'être ferme dans nos croyances importante et ne pas être influencé par diverses pensées qui pourraient survenir avec les différentes époques et les différentes modes. Le deuxième point, c'est que non seulement on est résistant au vent, mais on est aussi résistant aux intempéries. Et les intempéries, c'est quoi? C'est la pluie, c'est la neige, c'est la grêle, le grésil. C'est le verglas pour nous qui sommes au Québec. Dans certains cas et dans certaines autres contrées, c'est la tempête de sable. Il nous faut être résistants. Il nous faut être capables de faire fi des intempéries. Et ces intempéries, c'est quoi? Ces intempéries, c'est les saisons de notre vie ou ces passes de notre vie où on rencontre des tempêtes. Il y a des chrétiens qui pensent, lorsqu'ils viennent à Jésus, qu'à partir de ce moment-là, il fait tout le temps beau, il fait tout le temps soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, il n'y a pas de neige, c'est tout le temps au-dessus de 25 degrés Celsius, avec un léger vent pour rafraîchir un peu, mais ils pensent que lorsqu'ils arrivent à Jésus, ils arrivent comme s'ils pénétraient dans un Club Med, et puis on va les gâter tout au long de leur parcours. La vie n'est pas comme ça. Et la Bible nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc, au même titre où il pleut dans la vie de tous les jours, dans la vie normale et naturelle de tous les jours, dans notre vie spirituelle, par moments aussi, il y a des pluies. Par moments aussi, il y a des saisons avec de la neige. Par moments aussi, il y a de la grêle. Par moments, il y a la tempête. Et il nous faut apprendre à être solide dans notre foi pour résister face à la tempête. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises sur des choses que je crois qui m'ont protégé personnellement lorsque les tempêtes se sont déclenchées dans ma vie. Et je ne parle pas nécessairement simplement de la tempête quant à la maladie qui m'a affligé il y a quelques années, mais je parle de toutes les tempêtes qui sont survenues, des proches qui sont décédés, des proches qui ont quitté. Des amitiés qui se sont rompues, des périodes aussi où j'ai dû accompagner des proches dans des maladies, des saisons où ça a été beaucoup plus demandant physiquement, spirituellement pour moi. Et j'expliquais que pour me préparer, quand je sens qu'une telle situation va se présenter, j'ai comme réflexe personnellement de prendre plus de temps dans la prière, plus de temps dans l'étude de la parole, plus de temps dans la présence du Seigneur, même au détriment de mon sommeil. Je préfère me priver de quelques heures ou de quelques minutes ou de quelques demi-heures de sommeil pour pouvoir passer un peu plus de temps dans la présence de Dieu, sachant que les jours ou les semaines ou les mois qui vont venir vont être plus exigeants. J'ai en mémoire un moment particulier lorsque mon beau-père est tombé malade et je savais que ça allait être une saison qui serait difficile. Donc j'ai pris plus de temps de façon tout à fait délibérée et réfléchie dans la présence de Dieu pour renforcer, je dirais, mon système immunitaire spirituel. Quand le pasteur Fontalvo, qui m'a précédé comme pasteur au sein de l'Église, est décédé, ou il est tombé malade, là encore, je savais que la saison qui s'en venait allait être plus demandante, voire très exigeante. Donc j'ai pris plus de temps, là encore, dans la présence de Dieu. Et c'est un peu la même chose que je fais actuellement. Je savais que lorsqu'on a confiné les gens et qu'on a supprimé les assemblées, je savais que pour nous, en tant que corps pastoral, ça serait non pas un temps de pause et un temps de repos et un temps avec moins d'activité, mais que ça serait un temps qui serait beaucoup plus exigeant et demandant. Alors là encore, j'ai augmenté mon temps d'étude, mon temps de prière, non seulement pour être avec vous avec un message quotidien, mais de surcroît ça, pour moi-même, personnellement, j'avais besoin de me rafraîchir dans la présence de Dieu en vue de l'exigence que représenterait ce moment sur ma vie. Donc, faire fi des intempéries en fortifiant notre foi, en faisant que notre foi ne soit pas que notre foi soit inébranlable, que notre foi ne puisse pas être vacillante, malgré les tempêtes qui surgissent à l'occasion, voire même régulièrement dans notre vie. Troisième point, on a fait fi du vent, on a fait fi des intempéries, on fait fi aussi des saisons. Hier, on rappelait régulièrement le verset notamment dans le psaume 1, où on nous dit que celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines et qui reste vert même dans la période de sécheresse et qui porte du fruit en sa saison. Donc ici, on parlait d'un arbre qui, même dans la période sèche, reste verdoyant. Donc un arbre qui fait fi des saisons. Et notre foi doit faire fi des saisons. Notre foi, que ce soit une saison qui soit clémente, que ce soit une saison qui est exigeante, que ce soit tout simplement parce qu'il y a une succession de transformations de température ou de temps et autres, ben nous devons être perméable à la chose, ou plutôt nous devons être imperméables à la chose. Nous devons être inébranlables face à ces choses qui régulièrement vont venir nous affecter. Un arbre qui n'est pas en bonne santé va être affecté par une saison ou une autre. Si la saison devient sèche, mais que ses racines, que son système de racines n'est pas assez profond, ben il va être sujet à ce manque d'eau. Parce que les racines n'ont pas tout ce que ça prend, n'ont pas la longueur que ça prend pour aller chercher au plus profond les nutriments et l'hydratation qu'elle a besoin d'aller chercher dans le sol. Donc, faire fi aux saisons qui s'écoule. Deux points encore qui sont importants pour nous ce matin. Un arbre qui fait fi des transformations du terrain. Aujourd'hui, le terrain peut être très sec, peut être très aride. Mais demain, ça, on peut arriver dans une saison des pluies et le terrain dans lequel on est planté va être plus malléable, va être plus friable, va être d'une autre consistance. Mais nous devons rester fermes dans ce moment-là aussi. Donc, non seulement la fermeté, c'est de rester solide, mais en même temps, la fermeté peut aussi se représenter ou le fait d'être inébranlable peut aussi être représenté par une adaptabilité aux nouvelles notions du terrain. Et très souvent, ça, c'est un domaine dans lequel on a de la difficulté. On est inébranlable et on pense que inébranlable, c'est plus un synonyme d'obstination. Avoir la tête dure. Je suis ferme et je suis campé sur une position et je ne suis pas capable de m'adapter. Nous avons besoin, pour résister au changement du terrain, nous avons besoin de nous adapter. À un moment donné, l'eau va se trouver très profondément dans le sol. Peut-être que la source d'eau qui est à côté de nous va se mettre à tarir. Donc, les racines de l'arbre qui habituellement se pointeraient vers le côté pour aller vers le courant d'eau, c'est que maintenant, il n'y a plus d'eau dans la rivière. Donc, au lieu d'aller vers la gauche, les racines vont commencer à s'approfondir, à aller plus profondément dans le sol pour aller chercher l'eau qui se trouve dans les nappes phréatiques plus profondément dans le sol. Et ça, c'est une adaptabilité que la nature nous enseigne. C'est une adaptabilité que les arbres nous enseignent et nous devons nous aussi faire preuve de cette même adaptabilité. Être capable de ne pas être tout simplement ébranlé parce que le terrain a changé, parce que les conditions autour de nous ont changé. À un moment donné, ben, on vit dans un terrain vague, puis à un moment donné, ben, on est entouré de bâtiments, donc il y a plus de béton, donc moins d'hydratation pour le sol, moins de nutriments dans le sol, et à ce moment-là, l'arbre s'adapte aux conditions dans lesquelles il est maintenant résident. Ça peut ne pas être l'arbre qui a été déplacé, mais ça peut être tout simplement le contexte autour qui a changé. Regardez, pensez à une église. Lorsqu'on a commencé l'église, il y a maintenant 49 ans, puisque l'année prochaine, on fête le 50e anniversaire, ben la constitution de l'église, il y a 49 ans, au début de l'œuvre avec le pasteur Fontalvo, et l'église aujourd'hui, c'est deux choses complètement différentes. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'était le pasteur Fontalvo, son épouse, je crois qu'il y avait tout simplement Alvaro qui était né ou qui s'apprêtait à naître, en fait. Donc, c'était un contexte limité. Il y avait peut-être la sœur Larson qui était là, une missionnaire qui avait été un peu une mère spirituelle pour le pasteur Fontalvo pendant toutes ces années. Donc, il y avait un groupe restreint. Il n'y avait pas nécessairement tout le bagage culturel varié qu'on peut avoir chez nous aujourd'hui, avec des communautés qui se sont jointes à nous, des gens des Antilles, des gens d'Afrique, des gens d'Europe, qui ont amené un bagage, qui ont amené un vécu différent, qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est ce qu'elle est, et lorsqu'on la compare avec ce qu'elle était il y a 50 ans, c'est deux entités très, très, très différentes. C'est la même église, mais une église qui a évolué. Et ça, c'est aussi un problème que l'on rencontre régulièrement dans la pensée des gens qui veulent que la chose soit immuable, que la chose reste ferme et reste établie et ne change pas tout au long des années. Un corps qui ne change pas est nécessairement un corps qui va dépérir. Un corps qui reste identique est un corps qui est une momie. Il est déjà mort et ce corps-là a été momifié. Un corps qui est vivant est nécessairement un corps qui va changer. On était enfant, on était bébé, on est devenu enfant, on est devenu adolescent, on est devenu adulte et pour certains, on est devenu personne âgée ou vieillard ou aîné, comme vous préférez la terminologie. Mais le corps a changé. Donc, il est normal que l'Église de Christ, qui est un corps et qui est un corps vivant, puisse aussi évoluer. Et ce faisant, elle s'adapte à la situation. Les choses qui existaient lorsque je suis né il y a maintenant 40 et quelques années, bientôt 50 ans, ben ces choses-là sont désuètes. Je regardais un reportage cette semaine sur des choses qui ont disparu. Ben à l'époque, on avait ce téléphone avec le fil. Donc le combiné était attaché avec un fil à la boîte. Aujourd'hui, on a des cellulaires qu'on amène avec nous à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de notre maison, et malgré tout, on est encore pas incapable de l'utiliser, alors qu'à l'époque, on avait peut-être un fil, une rallonge d'environ une quinzaine de mètres maximum, et et on mettait le téléphone au centre de la maison, qui était le point utile. Si on était au fond ou devant, on pouvait tous aller répondre facilement. Aujourd'hui, chacun a son cellulaire. À un moment donné, l'ordinateur est arrivé, puis l'ordinateur s'est transformé en un cellulaire. On peut faire la même chose sur notre cellulaire qu'on faisait sur les gros ordinateurs qu'on avait lors de mon adolescence. Donc, le monde a changé et moi, j'ai dû m'adapter à cette nouvelle technologie et à ce nouveau monde. Aujourd'hui, on est en confinement. Il y a 20 ans ou il y a 30 ans, si on avait été en confinement, on aurait fonctionné simplement avec des appels téléphoniques et une petite prière, mais on n'aurait pas pu rendre disponibles des assemblées comme ce matin ou celles du dimanche matin que nous rendons disponibles sur Internet. Donc, on s'adapte. Et pour rester inébranlable, on s'adapte aussi, sinon on peut casser. Dernier point, on fait fi du temps. Le temps est quelque chose qui nous affecte tous. On vieillit tous, on prend tous de l'âge et on doit perdurer. La Bible nous disait de cet arbre qui est planté près des courants d'eau qu'il porte du fruit. Et on nous dit pas qu'il porte simplement du fruit pendant une saison ou pendant deux saisons ou pendant 10 saisons, mais on nous dit qu'il continue à porter du fruit. Et c'est ce que je crois qu'il doit être aussi pour nous tous. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles arrivent à un certain âge, il est vrai que physiquement, des limites apparaissent, physiquement, les capacités diminuent, mais je pense qu'il faut avoir cette adaptabilité, là encore, pour être capable d'être toujours productif pour le Seigneur, toujours rentable pour le Seigneur, en dépit du temps qui avance. Il y a peut-être des choses qu'on ne fera plus parce qu'on n'a plus les capacités physiques de le faire ou parce que le Seigneur a amené autour de nous d'autres personnes qui le font encore mieux que nous. Mais il nous faut avoir cette sensibilité et avoir cette sagesse de prier Dieu pour savoir maintenant dans cette saison où je suis rendu, dans ce temps où j'en suis rendu, même si mes forces diminuent, est-ce que je peux encore t'être utile? Et je pense que l'exemple parfait qu'on a dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Caleb, qui est le seul avec Josué à être rentré dans la terre promise de toute sa génération, parce que lui et Josué étaient les deux seuls qui avaient cru effectivement que Dieu allait leur donner Canaan lorsque les espions ont été envoyés dans le pays de Canaan pour voir de quoi en retournait ce pays. Les autres ont dit « il est impossible de gagner contre ces géants », mais Caleb et Josué ont dit « non, non, on peut réussir ». Et la Bible nous dit que lorsque la conquête a terminé, Caleb est allé voir Josué, et Caleb avait au-dessus de 80 ans, et il dit « aujourd'hui, je me sens encore aussi en forme ». Il y a 40 ans, je suis aussi en forme que dans ma jeunesse, donne-moi ma montagne. Et même quand on prend de l'âge, il est important de demander à Dieu, donne-moi ma montagne. Je veux savoir quelle est cette montagne que tu m'as accordée et je vais aller la conquérir. Il y a encore des conquêtes, il y a encore des victoires qui doivent être gagnées, qui doivent être remportées, même dans la vieillesse. Donc, rester inébranlable, c'est rester actif. C'est rester au service, c'est rester tout feu, tout flamme pour notre Seigneur et pour son œuvre en dépit de l'âge et en dépit du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Un arbre inébranlable qui ne peut pas être courbé par le vent, donc par les influences et par les modes, qui n'est pas courbé par les intempéries, par les tempêtes qui surviennent dans notre vie, qui fait fi des saisons, des changements d'époque, qui fait fi des transformations du terrain avec cette faculté à adapter son système racinaire ou racinal, je ne sais pas comment on dit, mais son système de racines pour s'adapter au changement du terrain et qui fait fi du temps, donc qui connaît une pérennité, qui connaît une durabilité dans le temps. C'est un peu ce que les gens disaient qu'ils cherchaient avec la fontaine de jouvence. Donc, nous, en Christ, nous restons solides, nous restons fertiles comme arbres, nous restons actifs pour le royaume de Dieu et nous remportons des victoires, même dans notre âge expérimenté ou dans notre vieillage. Alors voilà, c'était l'enseignement pour ce matin. On va prier et après ça, on va saluer quelques personnes et vous rappeler les petites annonces pour ce matin. Alors merci Seigneur d'avoir été présent parmi nous. Merci Seigneur de nous rappeler que non seulement notre fondation, comme on le disait hier, doit être solide, mais tu veux aussi Seigneur que notre foi demeure solide en dépit des influences des vents et des tempêtes qui soufflent contre nous, en dépit, Seigneur, des changements de saison, en dépit, Seigneur, des changements du terrain, du changement, Seigneur, du milieu dans lequel on est planté. Nous comprenons, Seigneur, que c'est toi qui nous gardes jeunes, c'est toi qui nous gardes, Seigneur, prêts à porter du fruit. Encore faut-il, Seigneur, avoir ce désir d'être productif et d'être profitable pour toi. Mais merci Seigneur de vouloir nous utiliser jusque dans notre vieil âge. Merci Seigneur de nous rendre capables de tenir face aux modes, aux influences qui ne viennent pas de toi. Merci Seigneur de nous rendre capables d'être durables dans le temps, dans les saisons. Et merci Seigneur de nous soutenir en toutes choses. Alors si tu vois que ta fille, Seigneur, ce matin était en train de fléchir, était en train, Seigneur, de courber les chines face aux tourments, face aux troubles, face aux tempêtes, nous appelons, Seigneur, ta main toute puissante pour la soutenir. Et nous appelons, Seigneur, un repos dans son âme, dans son esprit. Et un approfondissement, Seigneur, dans ta présence. Merci, Seigneur, de rappeler à tes enfants et à moi-même l'importance de prendre du temps dans ta présence, l'importance de prendre du temps dans la prière, dans l'étude de ta parole, de prendre du temps à proximité avec toi, en vue, Seigneur, des périodes exigeantes qui pointent à l'horizon. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère ce matin, renouvelle leur force, et garde-les solides en toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, les petites annonces pour ce matin, je recule un peu pour voir qui est branché avec nous pour les saluer. Juste un instant. D'accord. Donc, simplement vous rappeler, donc, ce soir, l'étude biblique avec le pasteur Sergio à 19h. Donc, servir Dieu en des temps de défi, ça va bien avec la thématique de ce matin, et de surcroît à cela, on vous invite aussi, tous ceux qui en ont la capacité, qui en ont le désir et qui cadrent avec les trois groupes habituels, 55 ans et plus, vous êtes une personne seule, 55 ans et plus, vous êtes un couple, mais un seul d'entre vous fréquente l'Église, et puis 65 ans et plus, un couple de l'Église, pour assister à l'Assemblée de ce dimanche. Comme je ne cesse de vous rappeler depuis le début de la semaine, on va bientôt changer les règles régissant l'accès au bâtiment. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui ont eu accès jusqu'à présent auront encore accès dans les prochaines semaines. Donc, on vous demande de bien profiter de l'opportunité qui vous est donnée pour vous inscrire dès ce matin pour l'assemblée de dimanche. Vous appelez, vous dites « je veux être là dimanche le 26 juillet » ou « nous voulons être là dimanche le 26 juillet ». Vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone. Et la sœur Patricia va vous appeler vendredi en cours de journée pour confirmer avec vous. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais saluer donc les personnes qui se sont jointes à nous. Bonjour à Laetitia, bien contente de t'avoir parmi nous. Bonjour Keren, contente de t'avoir avec nous. Sois bénie, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Donc, oui, sois bénie, gloire à Dieu. Bonjour Didier, bonjour Pascal. Bonjour à Gabriel aussi. Bien content de te lire, Joanie. Je suis content que Eva va bien, qu'elle dort bien la nuit. Ça va être plus agréable pour vous. Même, je suppose que vous vous réveillez de toute manière la nuit juste pour aller l'admirer. Donc, tu lui fais un gros bisou de notre part. Donc, sois béni, toi et puis la petite famille. Bonjour à Maggie, Dieu vous bénisse. Bonjour Jimmy, sois béni. Bonjour au frère Pedro. Bonjour à la sœur Florie, au frère Luis. Bonjour Javier, Dieu te bénisse. Bonjour à Pamela. Bonjour Alex. Donc j'ai salué Madame, maintenant je te salue à toi. Sois béni. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bonjour à Aneris. Elle, je lui parle en français, en anglais, puis en espagnol. Donc là, je vais juste lui dire God bless you, Aneris. Miss you. Hope you can come and visit us soon. Bonjour, Andrés. On essaie déjà saluer. Bonjour, Alex. Saint-Martin, ce coup-ci. Dieu te bénisse. Et je pense que c'est tout pour ce matin. Donc, rendez-vous ce soir, 19 h, avec le pasteur Sergio. Inscription pour l'assemblée de dimanche. Ne tardez pas à vous inscrire. Et puis nous, on se retrouve demain matin avec notre prochaine thématique qui sera travailler toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travailler toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. D'ici là, soyez inébranlables et soyez bénis. Bonne journée à tous.